Que dis-tu de Christ? Finalement, Christ, c'est qui pour toi? Comment est-ce que tu le confesses? Comment est-ce que tu le confesses pour ta vie? Comment est-ce que tu le confesses au milieu des tiens? Qui est Christ pour toi? Que dis-tu de Christ? Je lis Matthieu 16, premier verset. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère demande un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que le signe de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples qui partaient pour l'autre rive avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples discutaient entre eux et disaient, « Nous n'avons pas pris de pain. » Jésus s'en aperçut et dit, « Mais pourquoi discutez-vous entre vous, gens peu de foi, parce que vous n'avez pas pris de pain? Vous ne saisissez pas encore et vous ne vous rappelez pas les 5 pains des 5000 hommes et le nombre de paniers que vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes et le nombre de corbeilles que vous avez emportées. Comment ne le saisirez-vous pas? Ce n'est pas de pain que je vous ai parlé, mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent qu'il avait dit de se garder, non du levain du pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Cette première partie de ce chapitre est tellement caractéristique dans ce que le Seigneur voudrait vraiment nous avertir encore aujourd'hui. Il nous faut absolument la révélation de l'Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Alors, il y a bien entendu les pharisiens et les sadducéens. Nicolas parlait tout à l'heure du mondial. Alors il y a bien entendu l'équipe des gagnants et l'équipe des perdants. Et les pharisiens et les sadducéens, j'aimerais vous dire qu'ils étaient déjà dans l'équipe des perdants. C'est un petit peu cru, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient la loi, ils l'appliquaient pour eux, bien entendu, parce que la loi est bonne, mais ils voulaient se justifier par les œuvres de la loi. Et ils étaient perdants sur toute la ligne parce que la loi ne peut pas te justifier. Nous avons besoin d'un sauveur. Amen. Alors qu'ils étaient là en train de parler des choses de Dieu, alors qu'ils étaient là en train d'enseigner le peuple, malheureusement, ils engendraient la mort. Et avec eux, il y avait l'équipe des sadducéens. L'équipe des sadducéens ne croyait pas en la résurrection. Vous vous rendez compte, cette équipe de perdants, et ils persévéraient et signaient dans ces choses. Il faut avoir vraiment du courage, n'est-ce pas? Regardez ce que la loi produit finalement. La loi n'a-t-elle pas tué le Seigneur? Et ce matin, je fais un clin d'œil à un frère qui priait avec nous tout à l'heure à partir de 9h. Et dans sa prière, il disait « La loi tue ». La loi tue, et c'est exactement ce message aujourd'hui. La loi, elle tue, mais l'Esprit donne la vie. Amen. L'Esprit rend la vie. La loi ne va jamais t'amener la vie. Et ils abordent ce Seigneur, qui est le plus grand signe que l'Éternel a donné, parce qu'il prouve son amour au travers de son Fils qu'il envoie. Et voici qu'il demande un signe venant du ciel. Vous vous rendez compte? Ça ne suffit pas d'avoir le Fils devant soi, il faut encore un signe. À force de se faire peut-être des petits coucous et des petits signes, on ne sait pas où on va s'en sortir. Je ne sais pas ce qui va se passer, un signe venant du ciel. Et regardez ce que Jésus leur donne comme signe. Vous avez des signes déjà ici-bas, et vous savez discerner quel temps il va faire. Mais le plus grand signe, celui qui annonce la résurrection et la vie, vous ne pouvez même pas le percevoir. Et il ne vous sera donné qu'un autre signe, pas d'autre signe que celui de Jonas. Et c'est quoi? C'est bien entendu le signe de la résurrection et de la vie. Et sur ce, voilà que Jésus les quitte parce que la loi ne te permet pas de rencontrer le Seigneur. Et finalement, le Seigneur va quitter ces gens qui portent en eux toujours la mort et qui croient vraiment que le Christ ne va pas ressusciter, que le Christ ne va pas pouvoir donner la vie. Et ils sont enfermés dans leur péché, ils sont enfermés dans les principes de la loi, ils sont enfermés dans la mort. Et c'est terrible. Et c'est pour cela que je dis que c'est une équipe de perdants, pas de gagnants. Et toi qui as accepté Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, tu es vraiment dans l'équipe des gagnants. Amen. Parce que l'Éternel t'a rendu la vie. Parce que tu es attaché à la vie. Parce que la vie éternelle t'est destinée. Parce que la vie est le meilleur pour toi en Christ, bien entendu. Alors bien sûr, les disciples ne comprennent pas ces choses. Les disciples, quand Jésus leur parle, parce qu'il parle bien entendu de ces choses, et j'aime beaucoup l'amitié qu'il y a entre les disciples et Jésus, et voilà que les disciples ne comprennent pas ce qui se passe, et ils comprennent finalement, après l'enseignement de Jésus, qu'il faut se garder de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Pourquoi ? Parce qu'ils provoquent que la mort. On ne peut pas être justifié par la loi, il n'y a que le Christ qui peut te justifier. Si tu essayes de te justifier par des œuvres, même bonnes, tu ne vas pas y arriver, tu vas être déçu avant l'heure parce qu'il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut pleinement te justifier. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'un Sauveur. Amen. On a besoin de ce Seigneur absolument glorieux. On poursuit dans la parole du Seigneur à partir du verset 13. Arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, Jésus pose cette question à ses disciples. Les gens, finalement, que disent-ils ? Qui est le Fils de l'homme ? Et les disciples répondent, eh bien, les uns disent, tu es Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes, il y a un grand mélange. Mais vous, et cette question, ce matin, t'est posée personnellement. Toi, vous, toi, et ça c'est pertinent, leur dit-il. Il s'adresse toujours aux disciples. Qui dites-vous que je suis ? Toi, comment est-ce que tu considères le Christ ? Nous savons qu'il est présent parmi nous par son esprit. Comment est-ce que je l'accueille personnellement ? Peut-être que les gens disent plein de choses sur le Christ, sur Jésus. C'est clair, il y a beaucoup, beaucoup de doctrines et d'hérésies par rapport à ce qu'on peut raconter sur ce qui concerne le Seigneur. Et cela, ce n'est pas tellement intéressant. Et je trouve extraordinaire de voir que Jésus prend justement cette notion-là pour savoir un petit peu ce qu'on dit de lui. Mais finalement, moi-même, et cette question t'est posée ce matin, toi-même, que dis-tu de Christ ? Comment est-ce que tu considères le Seigneur ? Regardez, il y a un contraste avec le verset 32 du chapitre précédent, parce qu'on repose bien entendu la parole de Dieu dans son contexte. Et il est dit au verset 32, Jésus, chapitre 15, appela ses disciples et dit, j'ai compassion de cette foule, car voilà 3 jours que ces gens restent près de moi et n'ont pas de quoi manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur qu'ils ne défaillent en chemin. Vous connaissez la suite du récit, il y a cette foule, et je trouve extraordinaire. Parce que Jésus a toujours compassion de la foule. Toujours. Ça, c'est bon de savoir. Jésus a toujours compassion de la foule. Parce que c'est une foule qui a besoin d'un berger. Et là, on voit le cœur de Jésus qui est envoyé parmi sa nation, qui voit ces foules qui meurent de faim, mais aussi qui meurent de faim spirituellement. Et Jésus aura toujours compassion des foules. Regardez, il y a un contraste. Il y a la foule et il y a les disciples. Et l'enseignement que Jésus donne aux disciples est finalement différent de celui de la foule. Et ma question, eh bien, ce matin, est-ce que je fais partie de cette foule, alors tu as au moins la grâce d'avoir la compassion de Jésus qui t'est réservée. Amen. Et tu as besoin de savoir que Jésus a de la compassion pour toi. Mais le Seigneur voudrait plus démontrer de sa grâce pour toi, plus de sa compassion. Il voudrait t'enseigner par l'Esprit dans ses voies afin que tu puisses vraiment recevoir pleinement sa vie et alors tu peux devenir son disciple et de faire partie des disciples de Christ. Nous avons la grâce d'être enseignés dans toutes ses voies. Amen. Ça, c'est une grâce. Comment est-ce que tu considères Christ dans ta vie? Est-ce que tu penses de lui ou tu penses sur lui des choses? Est-ce que peut-être tu fais partie de cette foule qui est encore éloignée de Christ et que tu voudrais que Christ réponde peut-être à tes premiers besoins? Bien sûr que le Seigneur va répondre à nos besoins, ça c'est clair, mais le Seigneur voudrait répondre à beaucoup plus que ton besoin vital. Il voudrait vraiment répondre au salut dont tu as besoin, amen, parce qu'il est celui qui sauve pleinement et qui veut vraiment pleinement réjouir ton cœur et se tenir avec toi. Bien sûr, cette question aura une réponse. Simon Pierre répondit, et nous connaissons cette réponse, « Tu es le Christ, tu es celui qui est oint, tu es celui qui devait venir, tu es le choisi, tu es le Fils du Dieu vivant. » Et il y a une grande pause là. Jésus reprit la parole et lui dit, « Mais Simon, Pierre, tu es bienheureux, fils de Jonas. » Fils de Jonas. Il y avait ce signe de Jonas. Fils de Jonas. C'est vraiment prophétique là, c'est extraordinaire. « Car ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est Dieu qui révèle ces choses et nous avons besoin de la révélation du Père. » Amen. Mais la révélation de Dieu le Père ne fait pas tout. Et cela me percute aussi dans ce texte, parce que vous connaissez ce qui se passe par la suite. Regardez, donc Jésus, bien entendu, reprend cette déclaration, verset 18, « Et moi, et quand Jésus dit quelque chose, moi je te dis, ça peut paraître un petit peu redondant dans le texte, mais c'est vraiment pour appuyer quelque chose, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, moi j'y vois la déclaration de Pierre, hein, là, sur cette pierre, cette déclaration même que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, sur cette déclaration même, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Que dis-tu de Christ, Église? Que penses-tu de Christ, Église, encore aujourd'hui, en 2018? Ça file et ça défile les années, hein? Et nous allons vraiment dans des temps de séduction. Et l'Église doit être debout pour continuer à proclamer comme la déclaration de Pierre. Alors, on en a fait un premier pape. Ça ne me regarde pas, n'est-ce pas? Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est sa déclaration. Et l'Église est bâtie sur la déclaration de celles et ceux qui confessent que Christ est celui qui est oint, qui revient, qui est le Fils du Dieu vivant et qui vivent pleinement la grâce du Seigneur dans la révélation et le renouvellement de l'Esprit, dans l'abondance de vie que le Seigneur nous communique. Amen. C'est ça l'Église. Et cette Église doit confesser que Christ est Seigneur, le Fils du Dieu vivant, jusqu'à la fin. Parce qu'il y aura des temps difficiles, peut-être des temps où nous aurons vraiment de la difficulté de confesser encore cela. Et je bénis le Seigneur de voir cette assemblée qui est constituée, j'espère, de frères et sœurs en Christ. Amen. Renouvelée avec cette grâce de proclamer que tu es le Christ, celui qui peut tout, celui qui est oint, celui qui est choisi, celui qui veut me rencontrer, celui qui veut me guérir, celui qui veut me délivré, celui qui a pourvu, celui qui va tout faire pour moi. Amen. Cette confession-là, je la reçois pleinement. Amen. Parce que l'Église est habitée de ceux et celles qui professent et qui confessent la grâce du Seigneur. Alléluia. Moi, je te dis que sur cette pierre, que sur cette déclaration, que sur ce que tu viens de dire, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Christ ne l'a pas dit aux Sadducéens. Ça ne servait à rien. Les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection des morts. Ils étaient morts par leurs actions. Et voyez, la constitution de l'Église se fait de celles et ceux qui sont proches du Seigneur. la foule et la compassion du Seigneur. Mais il faut plus que la foule, il faut des disciples, des serviteurs et des servantes de l'Éternel qui se tiennent dans la proximité de Jésus. Et Jésus révèle ces choses extraordinaires à celles et ceux qui se tiennent dans sa présence. Amen. C'est ça l'Église. C'est rien d'autre. Ce n'est pas un club. Nous le savons. Oh là là, heureusement. En plus, dans les clubs, tu as les membres passifs. Attends, j'ai rien compris. Membre passif d'un club. Tu viens membre actif et tu passes de membre actif à membre passif. C'est un petit peu grave. Mais ce n'est pas comme ça dans l'Église. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Amen. Nous avons besoin les uns des autres. Merci beaucoup, Nicolas, tout à l'heure, d'avoir aussi permis que la prière s'élève pour les multiples nations dont l'Église est constituée. C'est extraordinaire. La richesse, il y a plusieurs couleurs ce matin parmi nous, mais ne t'en fais pas, nous avons tous le cœur rouge. Amen. Animé du même sang, il n'y a pas du tout de différence. Si on veut être raciste et qu'on te démontre de la haine par rapport à ta nation, c'est égal. Tu peux dire, moi j'ai le même cœur que toi, parce que mon cœur est rouge aussi. On a tous le même cœur. Et heureusement que Dieu regarde au cœur. Amen. Comme ça, ça nous aide un petit peu beaucoup quand même. Hein? Ah là là, quand on se fait rejeter à cause de sa race, c'est une catastrophe. Dans l'Église, ces choses n'existent pas. Amen. Parce que nous sommes proches de Christ. Parce que nous aimons Jésus. Parce que Jésus nous a réunis ensemble. Parce qu'il a fait de nous ce peuple extraordinaire. Ce peuple des rachetés, des élus en Christ. Alléluia. Christ va toujours élire une nation, alléluia. Christ va toujours honorer la nation et les nations qu'il aime et qu'il veut pleinement attirer à lui, qu'il veut pleinement racheter pour lui et pour la gloire de son Père, alléluia. Il va plus loin, le Seigneur. Je te donnerai aussi les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je ne veux pas forcément commencer à expliquer ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de commentateurs qui commentent, bien entendu, c'est la moindre des choses, ce verset. Mais regardez ce qui se passe. Ces choses sont révélées à ceux qui ont de l'intimité avec le Seigneur. Amen. Cultivons cette intimité avec le Seigneur. Soyons la présence du Seigneur. Pour qu'il puisse encore plus nous révéler ces choses. Parce que alors que nous nous tenons dans sa présence, je peux au moins dire une chose là, c'est qu'il y a l'autorité qui vient là, de la part du Seigneur. Amen. L'autorité nous est transmise dans la mesure où nous nous tenons au pied de Jésus, où nous sommes dans la présence du Seigneur. La foule n'est pas concernée par ces choses. La foule, Jésus a compassion d'elle. Ce matin, le Seigneur appelle plus que la foule. Il appelle des servantes et des serviteurs de l'Éternel. Il appelle des disciples qui sont prêts à mourir aussi pour lui. Et ça c'est quelque chose. Et ça a de la valeur aussi, je dis aussi, aux yeux du Seigneur. Parce que Jésus aura toujours compassion de la foule. Et je parlais du mondial tout à l'heure, bien sûr, les équipes, elles sont là. Mais finalement, de quelle équipe veux-tu faire partie ? Est-ce que tu veux faire partie des intimes du Seigneur? Et ce n'est pas une élection où tu dis, oulala, il faut commencer. Non, non, c'est une question de cœur. Est-ce que tu veux faire partie des intimes du Seigneur? Amen. C'est grâce à ton cœur ce matin. Il n'y a pas d'autre qualification que celle de ton cœur d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta puissance, de tout ce qui t'habite, ainsi que ton prochain comme toi-même. C'est cela que le Seigneur veut et c'est cela que l'Église représente, celles et ceux qui adorent l'Éternel et celles et ceux qui s'aiment entre eux, bien entendu, et qui s'aiment dans l'Assemblée, mais qui aiment aussi au-delà de l'Assemblée. Amen. Pas c'est facile d'aimer un frère, une sœur. C'est mon frère, c'est ma sœur. On est animés de la même foi. C'est fantastique, c'est peut-être facile. Mais lorsqu'il faut aimer et bénir ceux qui nous persécutent, c'est vrai que c'est plus compliqué cela. Et c'est l'Église qui peut le faire à cause de l'amour qui nous anime en nous. Alléluia, par la puissance de l'Esprit, béni sois-tu Seigneur, que le Seigneur est tellement bon, le Seigneur est tellement merveilleux, il y a de l'autorité qui est donnée pour celles et ceux qui sont dans la présence du Seigneur. Ensuite il y a cette recommandation au verset 20, alors il leur recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Ce sont des choses qui se cultivent dans l'intimité, il y avait encore beaucoup de choses bien entendu qui devaient se faire et Christ, de humble qu'il est et qui sera toujours, et bien, il leur recommande de garder ces choses pour eux pour le moment parce que le temps n'est pas encore venu pour que ces choses soient pleinement révélées. Verset 21, Jésus-Christ commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem et souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Vous vous rendez compte l'annonce? On est bien avec toi, Seigneur. On veut que ça dure, cette intimité. C'est merveilleux. Tu nous nourris, tu pourvois, tu guéris, tu nous consoles, tu nous aimes, tu nous aides, tu nous conduis, tu es le chemin, la vérité, la vie. Nous sommes conduits au Père par toi, Seigneur, tu es extraordinaire. Et tu nous parles maintenant de la mort. Alors il y a la fougue de Pierre là qui est là. Pierre le prit à part, il le prend à part. Viens, il faut qu'on discute, Seigneur. J'ai quelque chose à te dire. J'ai une deuxième révélation. Et j'espère que tu vas me dire que c'est une deuxième révélation. Parce que la première, il l'a eue, hein? D'accord? Cette révélation. Une deuxième révélation. Et elle se mit à faire des reproches au Seigneur. Alors, quand on vit une intimité avec Jésus, c'est des fois un petit peu comme dans l'Église. Nous sommes très proches les uns des autres et nous nous autorisons des familiarités qu'on ne devrait jamais, jamais, au grand jamais, s'autoriser. Alors, il y a déjà le tutoiement, je ne demande pas qu'on se vous voit tous. Bon, si on était des Anglais, on se voit tous, donc il n'y aurait plus, pas de problème. C'est bien le tu, c'est bien la proximité, c'est bien l'intimité, mais gardons un profond respect de qui nous sommes en Christ. Amen. Parce qu'alors, les familiarités dans l'Église, ça peut vous conduire dans des catastrophes, mais des catastrophe au nom de ce que tu es mon frère et ma sœur. Bien sûr qu'on a le droit de se reprendre. Bien sûr qu'on a le droit de veiller les uns sur les autres. Et merci pour aussi les bergers que vous êtes, parce que dans les cellules de maison, parce qu'au milieu de l'église, quand tu exhortes un frère, une sœur, tu fais aussi un travail de berger. Heureusement, merci Seigneur pour la grâce que nous avons de veiller les uns sur les autres, mais de ne pas nous surveiller. D'accord ? De ne pas nous épier, de ne pas nous autoriser des barrières que nous n'oserons jamais franchir. Et Jésus n'a jamais franchi ces barrières, même avec ses disciples, même s'il a autorité sur toute chose. Le Seigneur va toujours respecter ta personne. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas dans l'Église ? Et alors, Pierre, investi de cette mission, le prend à part, lui fait des reproches. Il faut le faire là, quand même. Je pense que Pierre n'était pas encore né de nouveau, parce que la nouvelle naissance est venue après. Il a aussi besoin, bien entendu, d'être rempli de l'Esprit. Vous vous souvenez, après, dans la Pentecôte, ce qui s'est passé, alors qu'il a eu vraiment cette fougue qui vient de l'Esprit pour proclamer la parole de Dieu. Alors, l'Église est née au travers de sa prédication. C'est absolument extraordinaire. Et je pense que Pierre avait encore besoin de nouvelles naissances. Et moi, ça me pose quand même une certaine difficulté, c'est qu'il reçoit une révélation absolument extraordinaire du Père, mais il n'est pas encore pleinement né de nouveau. Il y a un problème là. Attention, on ne va pas marcher qu'au coup de révélation. Tu peux être approché par quelqu'un qui a reçu une révélation absolument extraordinaire, mais qui peut-être n'est pas forcément né de nouveau. La personne reçoit une révélation du Père, mais elle va à l'encontre de la mission et de la vocation du Père. C'est absolument troublant cela. Sur cette déclaration de Pierre, pas sur Pierre qui devait être encore transformé, sur cette déclaration, je pense qu'il y a une preuve là, sur cette déclaration de Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Christ va toujours construire sur cette déclaration, amen. Ça c'est une révélation qui ne va jamais, jamais, jamais changer. Mais quand il est question de la mort, c'est facile de l'éjecter comme les Sadducéens. C'est facile de l'éjecter, c'est facile de dire, ben voilà, il n'y a pas de résurrection, je vais rester dans la mort, parce que la mort va m'engager à quelque chose. Et cela, c'est réservé pas pour la foule, mais c'est réservé pour les intimes de Jésus. Amen. Et Pierre ne supporte pas cela. Pierre lui fait des reproches. À Dieu ne plaise, il prend le nom de l'Éternel. À Dieu ne plaise, il se place au-dessus de Dieu. Pourtant, il a reçu la révélation. Il se place au-dessus de l'Éternel. Et il dit, à Dieu ne plaise. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Parole
de Pierre.
Moi, j'aurais voulu être là. Hein. Je pense que Jésus, c'est... Oh, waouh, on est où, là? Déjà, tu me prends à part, Pierre? Tu me fais des reproches? À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Tu te prends pour qui? Jésus ne se laisse pas désarçonner. Il peut y avoir des révélations absolument extraordinaires, des déclarations absolument extraordinaires, même dans l'Église. Mais quand la mort est là pour un but, et ça, ça fait mal, eh bien là, les choses sont mises à plat. Et la révélation prend toute son ampleur. La révélation par cette déclaration de mort de la vie donnée de Jésus va révéler le cœur de Pierre. Un cœur de Pierre encore, qui s'endurcit pour se placer au-dessus de Dieu et qui va décider de la destinée de Christ. Il faut le faire. Et là, vous avez le contraste de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui est certainement rempli d'orgueil. Ben oui, c'est clair, on n'est pas né de nouveau. On baigne dans l'orgueil, ça c'est clair. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il va baigner dans l'orgueil. Jusqu'à la fin, il va même commencer à sortir son épée pour défendre le Christ. Il n'a absolument rien compris, malgré la déclaration qu'il vient de faire. On a besoin d'être pleinement visité par le Seigneur et de rentrer dans cette dimension de cette annonce de la mort et du plan de Dieu parfait, parce que Dieu veut nous rencontrer dans notre misère la plus profonde, celle de la mort. Mort peut-être à mes projets, mort à mes idées, mort à ce que je pense de Jésus, mort à la conception de Christ que j'ai peut-être, mort de l'idée que je me fais. Que dis-tu de Christ? Que penses-tu de Christ? Que fais-tu de Christ? Comment considères-tu? Amen. Jésus se retourne. Et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Là, il n'y a pas de quartier. Jésus rempli de compassion aux foules, pour les foules. Amen. Mais lorsqu'il a affaire à ses disciples, on est à un autre degré et des choses doivent être dites comme elles doivent être dites. Et c'est Jésus qui le reprend sévèrement parce qu'il sait de quoi Pierre est animé. Il est animé de cet orgueil qui veut l'empêcher de mener, bien entendu, à bien son œuvre pour le salut. Et voilà que le Seigneur ne se laisse pas désarçonner. Amen. Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale. Et Satan sera toujours un scandale pour les disciples de Christ aussi, amen, pour l'Église, toujours. Il n'y a pas d'affection à voir avec le diable. Il est intraitable parce que sur ta vie, il veut être intraitable et t'entraîner jusque dans la mort. Intraitable, nous devons être clairs avec le diable. Et quand tu sens qu'il y a quelque chose, c'est arrière de moi, Satan. Tu as reçu l'autorité. Cela n'est pas non plus réservé aux foules dont Jésus a compassion. Il faut avoir cette intimité avec le Seigneur et savoir de quoi est-ce qu'on cause. Et Jésus, là, les enseigne à avoir cette détermination à l'égard de Satan, de dire non, tu dégages, tu n'as rien à faire, tu mets en scandale, tu n'as rien en moi. Parce que je suis celui qui vais accomplir parfaitement la volonté de mon Père. Et tu peux le dire avec le Seigneur, si tu es disciple, tu vas aussi accomplir parfaitement la volonté de ton Père qui est dans les cieux. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, il ne le dit pas à la foule, il le dit à ceux qu'il prépare. Si quelqu'un veut marcher sur mes traces, qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive, c'est cela, suivre Jésus. Ce n'est pas seulement être nourri pour ses besoins. Oui, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Oui, il veut nous nourrir, il est fidèle, bien sûr. Continue à prier dans notre Père, amen, qu'il le glorifie. Tu dois le glorifier, le Seigneur. Et en étant disciples, alors que nous prions cette prière, nous sommes celles et ceux qui veulent pleinement marcher sur les traces de Jésus en renonçant à soi-même et en se chargeant de sa croix et qu'il me suive. Tu ne peux pas suivre Jésus, il y a un ordre, sans renoncer à toi-même et sans te charger de ta croix, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu veux déposer cette croix. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu ne vas pas renoncer à toi-même. Parce qu'il y a la mort. Mais cette mort va t'amener à la vraie vie. Amen. Cette connexion avec la vie. Mais elle doit passer par la mort. Oh Seigneur, donne-nous cette grâce d'avoir vraiment la capacité, surtout l'intelligence par ton esprit de comprendre ces choses. Et il continue, quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Il est clair, c'est ça la rencontre avec le Seigneur. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier si sa vie lui est ôtée? Ou que donnera un homme en échange de sa vie? Je l'ai déjà dit, on a déjà rigolé, mais c'est vrai, la chemise des morts, c'est la seule chemise qui n'a pas de poche. On ne peut rien prendre avec soi. Rien du tout. Mais ça, on a de la peine aussi à se rendre compte. Tu es être disciple de Christ. Passe par ce chemin étroit. Regarde, verset 27. Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses actions. En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et nous avons le récit de la transfiguration au chapitre 17. Et je pense en tout cas que c'est de cela que le Seigneur voulait leur donner comme révélation de grâce, qu'ils puissent voir quand Christ reviendra déjà dans sa gloire. Et je pense que ça fait référence, bien entendu, à l'événement de la transfiguration. Je ne veux pas forcément épiloguer sur cela maintenant. La première de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 2, il est dit, plutôt je vais lire à partir du premier verset, 1 à 5, 1 Corinthiens 2, 1 à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu et bien-aimé. Le témoignage de Dieu, c'est ce que nous avons entendu ce matin. C'est cela. Et Paul continue. Paul a été saisi par Christ. Et il continue, car jugez bon de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est cela que l'Église va confesser. C'est cela que l'Église va vivre. C'est cela que l'Église va continuer de promouvoir, si je puis dire. Verset 3, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Là, on voit Pierre, la fougue de Pierre, qui n'est pas du tout en adéquation avec ce qu'on lit ici. Vous êtes d'accord? Verset 4, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, autrement dit des discours humains, de ce qu'on peut se faire d'une idée de Christ, de penser de Christ, qu'est-ce qu'on pense de Christ finalement. Mais l'essentiel, qu'est-ce que je vis avec le Seigneur? Mais sur une démonstration, alléluia, d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia.